trop s'engager et par peur de trop s'engager et perdre sa liberté. C'est un fait que, surtout aujourd'hui, ça on l'entend partout. C'est pas propre, si vous voulez, à la communauté. C'est un phénomène très général aujourd'hui. La peur de s'engager. C'est un peu pour ça, oui, Gabriel Marcel a mis très en lumière ces problèmes-là. Philosophiquement, il y a quelque chose d'intéressant. La différence du spectateur et du témoin. Le spectateur ne s'engage pas et le témoin est engagé. On est témoin que quand on est engagé. Autrement, on n'est que spectateur. Le spectateur, c'est celui qui connaît et qui n'est pas engagé affectivement. Tandis que le témoin est engagé affectivement. Les apôtres, les évangélistes sont des témoins et non pas des spectateurs. Petite distinction très intéressante, elle est très vraie, du reste, je crois que c'est tout à fait juste. Alors, l'homme a toujours peur de s'engager, c'est-à-dire de donner son consentement plénier et de coopérer, parce qu'il a peur de perdre sa liberté. Et c'est vrai, ça, nous sentons ça très très bien. Quand on sait qu'on doit s'engager, on s'engage. Quand on sait que c'est la volonté de Dieu, par exemple, pour nous, on y va carrément. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas la volonté de Dieu? Est-ce qu'on a le droit de s'engager ou pas? Avec tout ce que ça implique. L'engagement implique une adhésion plénière dans l'ordre de l'amour. Alors, comme nécessairement nos activités sont limitées, si vous vous engagez dans un sens, vous ne pouvez plus vous engager dans un autre. C'est sûr. D'où cette crainte. Est-ce que c'est bien de m'engager comme ça? Oui. Les hésitations de quelqu'un qui est un regardant et qui s'engage après. Si j'entre dans la communauté, je ne pourrai plus faire ceci, ceci, ceci. C'est quand même bien embêtant. Parce que ça colle à ma peau. Alors, est-ce que je dois m'engager ou est-ce que je dois au contraire dire non, non, il vaut mieux pas. On fait tous ce petit calcul-là. S'engager implique un choix libre qui fait qu'on se donne entièrement à cela, on s'oriente dans ce sens. Et donc, nécessairement, il y a une décision qui fait qu'à partir de là, on est orienté dans un sens. Donc il y a une certaine peur. Parce que on se donne et on a peur de se donner. Tandis que quand on est spectateur, on ne fait que connaître et on garde toute sa liberté. C'est pour ça qu'au fond, dans notre monde d'aujourd'hui, où le point de vue de l'intelligence est souvent beaucoup plus développé que le point de vue de l'amour. Nous sommes un monde intellectuel, ça c'est sûr. Sans être tous des intellectuels, on est un monde intellectuel. La philosophie s'est orientée du côté uniquement de l'intelligence. Elle développe très peu ce que c'est que l'amour. Très peu. Vous ne voyez pas beaucoup de cours en Sorbonne sur l'amour. Très peu. On donne encore l'éthique, mais on ne sait plus très bien ce que c'est. C'est l'éthique du devoir, c'est pas l'éthique de l'amour. Alors parce que on ne sait plus très bien ce que c'est que l'amour, on en a peur. On a toujours peur de se donner. Tandis que connaître n'implique pas le don. Connaître, c'est s'enrichir. Aimer, c'est devenir relative à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on a peur de devenir relative à quelqu'un d'autre. On a peur de ne plus avoir la même liberté. d'être spectateur et d'être témoin. Où est-ce qu'on devrait l'étudier? Ça fait partie de quelle partie de la philosophie? L'éthique. Et la politique. En politique, un citoyen est-il spectateur ou est-il témoin? Sommes-nous spectateurs du régime actuel ou sommes-nous témoins? En tant que religieux, c'est facile. En tant que religieux, on ne peut être ni spectateur ni témoin. On se met un peu plus loin. Pour mieux voir les trains dérailler. C'est pas pour ça, vous comprenez bien. C'est pas pour ça. Mais c'est pour être plus entièrement donné à quelque chose de plus grand. Mais c'est très vrai, quand je suis spectateur et uniquement spectateur, c'est pas toujours légitime. Je dois m'engager à certains moments. Quand vous votez, vous vous engagez. Vous n'êtes plus que spectateur. Ça, il y a un engagement. On est témoin. Alors, continuons notre problème de philosophie, d'éthique. Les deux extrêmes de la philosophie. Philosophie première et éthique. La philosophie première, nous le verrons, est commandée par ce que saint Thomas appelle la ratio entis. Et l'éthique est commandée par la ratio boni. Je traduis ce qui est intraduisible. Oh! deux aspects, philosophie première et éthique, doivent toujours se développer parallèlement. Saint Thomas pose la question, qu'est-ce qui est premier, la raison d'être ou la raison de bien? Alors, il répond en normand. Et quand on répond en normand, c'est-à-dire peut-être que oui, peut-être que non, vous savez bien. Un pied d'un côté, un pied de l'autre. Alors, saint Thomas dit, la raison d'être est première. Oriental et le monde. occidentales, c'est venu de là. Alors, ce serait intéressant de voir dans Avicenne le Cadit. Parce que cette phrase-là, elle est d'Avicenne, elle n'est pas d'Aristote. Donc il n'y a pas de mot grec qui correspond à Cadit. C'est une expression arabe. Ce qui tombe, voyez, tomber dans l'intelligence, ce qui tombe dans le puits est profond. Vous savez bien quand on va à Samarie, le puits profond, on envoie un petit caillou, puis on écoute. Alors c'est l'être qui tombe dans le puits. Ce qui est Cadit in intellectu, dans cet abîme que représente l'intelligence. Alors, ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, ce qui est la première chose que l'intelligence saisit, c'est ce qui est. C'est extraordinaire comme vision, hein. C'est de montrer que l'intelligence, par nature, selon son appétit naturel, regarde toujours dans toutes les réalités, on dirait, son intelligibilité d'être. Sa valeur d'être. C'est la première chose que l'intelligence saisit. C'est très important de saisir ça, parce que ça fait comprendre comment la philosophie première, c'est l'appétit naturel de l'intelligence. C'est pour ça que si vous ne faites pas de métaphysique, vous frustrez l'intelligence de son appétit naturel. Alors ça explique beaucoup de choses. Ça explique l'irascibilité des intellectuels qui ne font pas de métaphysique. Parce qu'on a frustré leur intelligence du bien premier de l'intelligence. Il y a des frustrations qui se font. L'intelligence est faite pour ce qui est. Elle est faite pour connaître ce qui est. Elle est faite pour remonter jusqu'à Dieu. Oui, il y a deux grandes affirmations dans saint Thomas qu'il faut tout le temps voir. Primo cadit in intellectus ens. Et puis l'autre affirmation, l'intelligence capax dei. Les scolastiques diront l'objet premier de l'intelligence, c'est ens. L'objet ultime de l'intelligence, c'est Dieu. L'intelligence capax dei. L'intelligence, alors capax dei, vous voyez, elle est ouverte à Dieu. Ou elle est pour Dieu. On ne dit pas primo cadit in intellectus Deus. Non. Dieu n'est pas ce qui est premier saisi par l'intelligence. Il est ce qui est saisi en dernier lieu. Ultime. Tandis que ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, donc ce que l'intelligence saisit en premier lieu, c'est ens. Alors le mot cadit, hein, je demande ça aux Arabes. De saisir bien ce que c'est que ce cadit. L'étymologie du cadit par rapport à... Il doit y avoir une formule arabe mal traduite en latin. Ça arrive très souvent, ça. Parce que c'est deux génies différents. Et comme c'est très important, c'est tout à fait premier, primo cadit in intellectus ens. Ça, c'est d'Avicenne. C'est très net, c'est d'Avicenne. Donc, la source vient d'Avicenne, pas Aristote. Ça rejoint, si vous voulez, ce que dit Aristote quand il dit la philosophie première. Regarde le toon éon. Donc la philosophie première, regarde ce qui est en tant qu'il est. C'est sûr, il y a une parenté entre les deux. Mais ça ajoute quelque chose, c'est le primo. Selon l'ordre génétique et selon l'ordre nature. L'intelligence saisit ce qui est en premier lieu. Bon. Donc la raison d'être est première dans l'ordre de l'intelligibilité. Et la raison de bien est première dans l'ordre de l'exercice. saisir, saisir le bien humain. Qu'est-ce que c'est que le bien pour l'homme? Et toute l'éthique, c'est de rechercher ça. Bon, vous voyez par là comment je ne peux jamais séparer éthique et métaphysique, éthique et philosophie première. Mais je dois les distinguer. Autre chose est l'éthique, autre chose est la philosophie première. L'éthique est donc cette recherche de l'homme qui est tout entier tendu vers son bonheur, vers sa béatitude. L'homme qui recherche son bien. C'est ça que recherche l'éthique. L'homme qui recherche son bien. L'homme qui est avide de se développer pleinement en découvrant son bien. Et dans la mesure où il découvre son bien, il est heureux. C'est cela la recherche de l'éthique. La recherche de l'homme, c'est plutôt la recherche de l'éthique, c'est l'homme dans sa recherche du bien. Et du bien parfait, son bonheur. Par le fait même, je vais pouvoir distinguer trois niveaux de l'éthique. Et ça, je crois, très important. On ne le fait pas d'habitude. Je vous le dis parce que je crois que ça fait partie de ces confusions d'aujourd'hui. Et je crois que c'est très important pour nous de bien distinguer que le bien se présente à nous selon ces trois aspects différents, ces trois niveaux différents. Il y a le bien strictement humain, le bien au niveau philanthropique. Il y a le bien de l'homme religieux et il y a le bien du chrétien. Il y aura trois niveaux dans la philosophie éthique. Et je crois que il faut tout le temps maintenir ces trois niveaux. Et concrètement, c'est très important. Quand vous, par exemple, quand vous regardez l'avortement, vous condamnez l'avortement au niveau chrétien, vous condamnez l'avortement au niveau religieux, vous condamnez l'avortement au niveau humain. Trois arguments différents. Et ordinairement, les trois arguments sont confondus. Alors qu'on devrait distinguer mieux pour que les raisons soient plus parfaites, vous voyez. On doit mieux distinguer les trois dans une argumentation et dans une polémique. Donc, il y a l'éthique humaine. Et l'éthique humaine, elle est commandée par le bonheur de l'homme. Le bonheur humain. Quel est le bonheur humain? C'est l'amitié. L'homme est heureux quand il a trouvé un ami. Ça, c'est la première dimension de l'éthique humaine. Une éthique philanthropique, si vous voulez. Parce que l'amitié me conduit à regarder aussi les hommes, du fait même qu'ils sont des hommes, je les aime. Il y a donc une certaine amitié au niveau humain. Il y a un certain bonheur au niveau humain. Bien s'entendre avec les hommes. Paix aux âmes de bonne volonté. Oui. C'est très curieux. Parce que ça touche bien ce point de vue premier. Deuxième point. Quand je découvre l'existence de l'être premier, quand je découvre l'existence du Créateur, à ce moment-là, je découvre une nouvelle dimension de l'éthique. Le bonheur de l'homme est de rejoindre son Créateur. Et enfin, troisième dimension d'éthique, c'est pour le croyant qui sait que Jésus est le recréateur. C'est notre sauveur. Et l'homme n'est parfaitement heureux que lorsqu'il découvre son sauveur. Et il y a donc trois niveaux éthiques qui me semblent très bons, très nécessaires à distinguer. Alors essayez de bien les comprendre. L'éthique, c'est la recherche du bien. Et du bien humain. Eh bien, le bien humain, je le saisis à trois niveaux différents. Je le saisis comme bien humain immédiat. Je le saisis comme bien humain en référence au Créateur. Et je le saisis comme bien humain en référence au Christ Sauveur. Il n'y en a pas d'autre niveau. Cherchez bien, il n'y en a pas d'autre. Il y a trois niveaux sur lesquels, de fait, je saisis le bien. Et je peux envisager ce que c'est que le bien humain. Ajoutez, parce que c'est important de bien le saisir, ça aussi, que c'est au niveau éthique que je pourrais parler de philosophie chrétienne. Puisque c'est un problème actuel, ça, depuis Gilson. C'est Gilson qui a posé le problème de philosophie chrétienne. Y a-t-il une philosophie chrétienne? Y a-t-il une philosophie arabe? Ou est-ce qu'il y a une philosophie tout court? Eh bien, je dirais, il y a une éthique chrétienne. Y a-t-il une politique chrétienne? Y a-t-il un art chrétien? Et toutes ces questions qui se posent. Y a-t-il une politique chrétienne? Elle est bien cachée, la politique chrétienne. Il y a des journaux qui se veulent chrétiens et qui parlent de politique. Alors qu'est-ce qu'ils disent de beau et qu'est-ce qu'ils disent de particulier comparativement aux autres? C'est vrai, c'est intéressant de se poser. Est-ce que c'est une étiquette qui signifie rien du tout, qui se fait vendre pour les curés. Un journal catholique, qu'est-ce que ça veut dire un journal catholique? Peut-il y avoir un journal catholique en dehors de la vie de l'Église? Y a-t-il une éthique chrétienne? Y a-t-il une philosophie chrétienne? Donc, vous voyez, là, on touche un problème très important. Les avis sont divers. Ce qui montre que c'est le problème n'est pas si commode que ça. Alors, je vous donne le mien pour en ajouter un, n'est-ce pas? Je crois, personnellement, et de plus en plus, de sorte que j'en suis convaincu, qu'il n'y a pas de métaphysique chrétienne. Une éthique chrétienne. Et donc, quand je parle de philosophie chrétienne, je devrais tout de suite penser à une éthique chrétienne. Je crois qu'il y a un art chrétien. Je ne crois pas qu'il y ait une politique chrétienne. Vous voyez dans quel sens? La politique chrétienne serait celle de l'Église, si j'ose dire. Il y a des hommes politiques qui sont chrétiens. C'est tout à fait autre chose. Il y a des hommes politiques qui doivent être attentifs à l'aspect chrétien. Mais ça demanderait beaucoup d'explications pour bien comprendre. Mais ce sont des pistes intéressantes à préciser, ça. Je crois qu'il y a un art chrétien. Je sais qu'il y en a certains qui le refusent. Point de vue art. Je crois qu'il y a un art chrétien. Alors, Saint Louis est-il en face d'une politique chrétienne? Ou tout simplement, Saint Louis est un homme politique qui est un Saint Louis s'est sanctifié parce qu'il a été roi. Il s'est sanctifié comme croyant, comme chrétien. Et il était tellement chrétien qu'il a pu assumer son métier de roi. Parce que souvent, ça fait chavirer le chrétien. Quand il a trop grande responsabilité, il n'est pas assez chrétien pour assumer de hautes responsabilités. Tandis que s'il est suffisamment chrétien, il peut les assumer. Alors c'est là où on voit, vous voyez, la différence entre une attribution essentielle et une attribution accidentelle. Quand j'attribue chrétien à philosophie, quand j'attribue chrétien à éthique, quand j'attribue chrétien à philosophie de l'art, ou quand j'attribue chrétien à politique humaine, il faut se poser la question. l'homme est fait pour un certain épanouissement. On ne peut pas le douter. L'homme est fait pour un certain bonheur. Il est fait pour découvrir qu'il a besoin de respirer. Il a besoin de se développer. Il a besoin d'être. Et donc, l'éthique va essayer de comprendre comment l'homme, qui de fait est quelqu'un capable d'expérience, de découvrir tout ce qui est autour de lui et de découvrir son bien. En éthique, je pars de cette expérience de l'amour d'amitié. Europe, il y a la constipation parce que tu dois. Et la morale du devoir, ça aboutit à la constipation. Vous savez très bien ce que c'est. Hein. Tandis qu'en Amérique, il y a le jus de fruits. Alors, par le fait même, ce n'est pas le toi qui est en premier. C'est quand même quelque chose d'agréable à boire. C'est très schématique. Mais ça dit quelque chose. Comme toujours, ces choses qui sont caricaturales. C'est très très joli. La morale kantienne s'est établie en Europe. Et la morale kantienne a donné naissance à Freud. Il ne faut pas l'oublier, ça. La morale kantienne a donné naissance à Freud. Parce qu'on ne respire pas avec la morale kantienne. On ne respire pas. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ben, très bien, très bien. C'est pas ça le fondement de la morale. C'est pas le devoir. Le fondement de la morale, c'est l'amour. C'est l'amour qui me permet de comprendre ce que je dois faire. C'est en aimant que je comprends mon devoir. C'est pas en faisant mon devoir que je comprends mon devoir. Vous savez bien. À moi d'être un âne bâté. Parce que les ânes aiment bien leur devoir. Mais toujours la même chose. Hein. Alors ils vont directement à l'écurie en suivant les ornières. Parce que le devoir fait des ornières. C'est très curieux ça. Mais c'est très intéressant à regarder. De sonder sur quoi se fonde la morale. Alors, la morale chrétienne en Europe, depuis Kant, ça a été Kant. Et puis, maintenant, avec Freud et Nietzsche, je ne peux plus être kantien. Freud et Nietzsche nous ont libérés de Kant, c'est déjà pas mal. Mais ils n'ont rien mis à côté. Freud met l'art. C'est l'art qui fonde la morale. C'est pour ça que c'est la morale du surhomme. Et, je veux dire, Nietzsche met l'art et Freud, rien du tout. Freud ne donne pas de fondement de la morale. Il montre que l'homme est un être replié sur lui-même. Il est complexe. Il est complexe de type. C'est très curieux, ça. Vous voyez, et on assiste à ça, nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on est théologien, si on a la foi, on peut dire que la morale repose sur l'image de Dieu qui est en nous. Ça, c'est vrai. Et la grande tradition chrétienne, c'est de dire que la morale repose sur l'imago Dei. Et au plan philosophique, je ne peux pas dire ça. Alors sur quoi va reposer la morale au plan philosophique? Bien, je dis l'expérience de l'amour à l'égard d'un autre. Et l'expérience de l'amour à l'égard d'un autre, c'est l'amour d'amitié. C'est là où l'expérience est la plus forte et la plus consciente. Et c'est pour ça que la morale au plan philosophique, si on veut, aujourd'hui, essayer de comprendre ce que c'est que la morale, il faut partir de l'expérience humaine de l'amour d'amitié. Mais cette expérience humaine de l'amour d'amitié est limitée. Elle ne suffit pas à tout. Et c'est pour ça qu'il faut dépasser cette expérience et découvrir une morale religieuse.